uniquement de l'activité salariée telle qu'elle se conçoit. Et donc, à travers un point de vue alternatif...
Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Panique 105.4 FM. Et vous écoutez l'émission préparée par Vie Féminine Bruxelles qui s'intitule « Elles en parlent encore ». C'est une émission par les femmes, pour les femmes, qui se déroulera chaque 4e samedi du mois entre 12h et 13h. Je m'appelle Dominique Lillot et aujourd'hui j'aimerais que nous parlions du thème « La publicité sexiste et le sexisme ». Le 3 mars, Vie Féminine a organisé une journée d'études parlant de publicité sexiste qui dégrade l'image des femmes. Nous aimerions aujourd'hui reprendre ce thème avec vous et avec nos 4 invités à qui je vais demander de se présenter. Tout d'abord Magali.
Bonjour, donc je suis Magali Verdier et je suis responsable de l'association Vie Féminine Bruxelles. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur la publicité pour l'organisation de cette journée.
Merci Magali. Yvette ?
Oui, je suis donc Yvette Liénard et je fais partie de Vie Féminine depuis bien longtemps et je suis responsable à Saint-Julien, au Neurgem.
Jean-Baptiste ?
Bonsoir, Jean-Baptiste Godineau. Donc je suis membre de l'ASBL Respire qui est une association qui s'occupe de lutter contre l'envahissement publicitaire. Plus exactement, de œuvrer pour libérer l'espace public de la publicité commerciale.
Merci Jean-Baptiste. Et maintenant Irène ?
Oui, alors bonsoir. Moi, je m'appelle Irène Coffer, je suis une militante féministe et je collabore à Axel, qui est la revue de Vie Féminine.
Je vous remercie. Donc, nous débattrons avec ces 4 personnes. Nous écouterons aussi de la musique, plus ou moins adressée aux femmes. Et pour l'instant, nous allons vous lire quelques slogans publicitaires qui nous choquent énormément et qui sont pour nous des slogans assez sexistes. Donc, je vais commencer et Irène va m'aider dans cette tâche. Parce que je le vaux bien.
0% de complexe.
Buvez, éliminez.
Dadadi, oh oui.
Les hommes savent pourquoi.
Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur.
Libérez de la place dans vos cerveaux, supprimez vos beaux souvenirs et mettez à la place nos promos.
La crème, je la lis, je la fouette et parfois elle passe à la casserole.
Comment survivre à votre table à repasser?
Pour les achats, les femmes au pouvoir.
Ça fait du bien ou ça fait mal?
Plus fort que la douleur.
Si je l'attrape, je le mords. Voilà, nous voulions un peu illustrer avec ces exemples les publicités qui nous sont offertes à la radio, à la télévision, dans la rue, au cinéma, un peu partout. J'aimerais maintenant vous demander vos réactions à chaud, savoir ce que vous pensez de ce type de publicité. Je vais demander à Jean-Baptiste, par exemple.
D'abord, je pense qu'ils ne nous les offrent pas, ces publicités, parce qu'on les paye, en fait. Elles nous coûtent très, très cher. Parce que forcément, ça coûte cher de faire une publicité, de la diffuser. Ce prix-là est répercuté dans le prix des marchandises. Donc, c'est nous tous qui payons ce genre de publicité. Et elles sont particulièrement scandaleuses parce que, justement, elles mettent en scène des représentations inégales entre les hommes et les femmes.
Oui, Jean-Baptiste, c'est ce que j'allais dire. Tu es déjà dans l'analyse un petit peu. Je voulais tes réactions à chaud. Quand tu entends ça, en tant qu'homme?
Eh ben, je trouve ça pathétique et enfermant, en fait. Enfermant aussi bien pour les hommes que pour les femmes, puisque ça pose les gens dans des rôles qui sont extrêmement limités et qui sont réduits à quelque chose qui a à voir avec le genre et le sexe, qui est rien d'autre au-delà de ça, alors que l'humanité ne se résume pas à ça. Donc, c'est vraiment enfermant.
D'accord. Et toi, Magali ?
Moi, j'ai envie de réagir sur la crème. Je la lis, je la fouette, je ne la bats, je ne sais plus quoi, mais c'est vraiment... je trouve très choquant, c'est de l'ordre du porno, et je vois pas le rapport entre la crème et le porno, et donc c'est, je trouve, l'exemple le plus caricatural, mais le plus dur, et qui se répand de plus en plus par rapport à l'image dégradante de la femme.
C'est la crème fraîche qui t'a choquée. Et maintenant, Yvette, quelles sont tes réactions, Yvette ?
Moi, je trouve que les techniques publicitaires sont de plus en plus pernicieuses et ressemblent davantage à de la manipulation intellectuelle.
Très bien. Et maintenant, nous allons demander à Irène, qui a aidé à raconter un petit peu ces publicités. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on a dit ?
Mais je crois d'abord que le désavantage de la radio, c'est qu'on n'a pas l'image, et que l'image ne fait qu'en rajouter, et que vraiment, la façon dont on traite les femmes, il y a souvent l'image en plus. Et que les textes qu'on dit, c'est souvent juste une sorte de sous-titre qui aggrave encore le message originel. Donc je crois que vraiment, moi je trouve que la plupart de ces publicités sont d'ailleurs totalement ridicules, en plus de tout le reste. Et souvent, en plus, les publicités radio sont encore pires que les autres, parce qu'on dirait qu'on doit en rajouter pour faire passer plus de sexisme à la radio sans l'image. Donc je trouve effectivement que c'est assez lamentable, oui.
D'accord. Puisque tu parles d'image, j'aimerais vous demander aussi ce que vous pensez, bon, on va revenir un petit peu là-dessus, sur l'image des femmes dans la publicité en général. Jean-Baptiste ?
Une image dégradée, c'est-à-dire que les femmes sont présentées très souvent comme objets sexuels ou alors comme femmes de ménage, éventuellement femmes-mères, mais c'est à chaque fois encore des rôles extrêmement limités, extrêmement stéréotypés. Et par ailleurs, souvent dégradant. Et ça, c'est probablement un des trucs les plus choquants, en tout cas, de mon point de vue.
Magali ?
Mais je crois que Jean-Baptiste a déjà bien annoncé, disons, les aspects principaux de la publicité sexiste. Je pense que le problème, c'est, pour nous, c'est dégradant. Le problème, c'est que les gens, ils ne voient pas forcément ça. Et donc, je pense qu'un des problèmes des images... véhiculées, donc les images des femmes véhiculées dans la publicité sexiste, et qu'elles renforcent ou confortent des idées déjà reçues par les gens. Donc elle ne remet certainement pas en question les choses et n'invite pas les gens à se poser des questions, et bien au contraire les conforter dans leurs idées machistes ou les femmes dans leur rôle convenu. Voilà, donc moi c'est ça qui me choque, c'est que ça va à l'encontre des valeurs prônées d'une démocratie. Hein. Jamais, si on interroge un politicien, on vous dira qu'il y a des rôles inégaux, que tout le monde vous dira les hommes et les femmes sont égaux. En tout cas, politiquement, c'est ce qu'on va dire. Après, dans les faits, c'est autre chose. Voilà, et la pub, elle est exactement à l'inverse de cela.
D'accord, donc elle renforce des préjugés vis-à-vis des femmes. Mais on parle d'image des femmes, mais la pub sexiste, est-ce que c'est quelque chose encore de plus fort que ça ?
Oui, moi je voudrais dire par rapport à ce qu'on a dit, donner un petit exemple, qu'on peut faire aux femmes ce qu'on ne peut pas faire à d'autres. Il y a eu au début de cette année une publicité qui avait été proposée par le gouvernement d'ailleurs, pour rappeler qu'on ne pourra plus fumer dans les restaurants. Et on présentait les fumeurs comme des animaux. Et cette publicité-là, elle a été retirée. Parce que les fumeurs ont protesté, et que donc, comment on ne va pas présenter des gens comme des animaux. Bon, très bien. Mais à côté de ça, il y a une publicité pour un matelas, depuis longtemps d'ailleurs, qui montre une femme qui allaite des petits, mais on voit bien, elle est dans une position d'un animal en train d'allaiter. Il y a eu des protestations, et curieusement, là, ce n'était pas du tout dégradant. Donc, présenter une femme comme un animal, c'est pas grave. Présenter des fumeurs comme des animaux, ça, c'est grave. Et je trouve que le parallèle entre les deux est assez significatif de la place des femmes dans la publicité.
Je vous remercie. Nous allons maintenant mettre un peu de musique pour adoucir un tout petit peu ce débat. Bien sûr, nous allons reprendre tout de suite après. Et nous allons écouter Juliette. Juliette, qui est une chanteuse française et qui va nous chanter « Maudite clochette ».
Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier, le monter, le descendre et le monter. Au ding-ding oppressant de la clochette qui sonne et qui ressonne et qui résonne.
Bonjour, vous êtes bien toujours sur Radio Panique 105.4 FM. Nous parlons de publicité sexiste avec l'émission Elles en parlent encore. Nous avons quatre invités très intéressants qui nous aident à réfléchir sur ce sujet. Nous avons en première partie défini la publicité sexiste et maintenant nous aimerions approfondir un petit peu. Et je vais demander à une de nos invitées un petit peu comment elle pense que la publicité... Quels sont les enjeux réels de cette publicité sexiste ?
Oui, alors, Moi, ce que je pense, c'est qu'on se focalise un peu trop d'habitude quand on parle de publicité sexiste sur l'image qu'on donne des femmes. Par exemple, le fait qu'il y ait des femmes dénudées dans la pub. Bon, à la limite, quand il y a une publicité pour des sous-vêtements, qu'une femme dénudée, c'est un peu normal. Ce qu'il faut remettre en cause, c'est la publicité en général ou les sous-vêtements en général. Mais le fait de se braquer sur la publicité, c'est pas ça le problème. Mais ce que je trouve plus pernicieux encore que ces images-là, c'est toutes les images qui montrent les femmes comme n'étant pas au même niveau que les hommes, par exemple dans la vie professionnelle, par exemple dans la vie domestique aussi, mais même des institutions. Bon, là, ce ne sera pas de la pub, je pense à la région Wallonne. La région Wallonne a fait une publicité pour les talents wallons en éditant une série de cartes postales qui ont été très largement diffusées. Il se fait que sur les 25 cartes, il y avait deux femmes, comme s'il n'y avait pas de talent féminin en région Wallonne. Et je crois que c'est tout à fait pernicieux parce que chaque carte se justifiait tout à fait, mais c'est l'ensemble qui donnait cette impression-là que finalement, les femmes, elles ne sont pas présentes. Et on voit ça aussi dans l'espace public. Ce n'est pas tellement une publicité sexiste qui, moi, me pose problème dans les enjeux, parce que finalement, on peut encore la décrypter et dire, oui, bon, c'est de nouveau l'utilisation du corps des femmes. Mais c'est le fait qu'on est tout le temps dans cette atmosphère-là, dans l'espace public, à la télé, dans les magazines, et que finalement, on ne peut pas y échapper. Et que l'image des femmes qui est donnée de cette manière-là, évidemment, elle influence l'image qu'on a des femmes et l'image qu'on intériorise des femmes. Et ça, aussi bien les hommes que malheureusement les femmes.
Oui, parce que quand tu donnes cet exemple hein, de deux cartes sur un certain nombre de cartes pour les hommes, on peut dire que c'est inconscient, par exemple. Hein. Ce n'est pas vraiment volontaire, mais comme par hasard, les gens vont quelque part dans leur cerveau imprimer qu'il y a moins de femmes valables dans la région wallonne que d'hommes.
Oui, on avait d'ailleurs au cours de la journée d'études montré aussi des publicités de la région flamande, comme ça on est à égalité, plutôt de la province du Limbourg, où on montrait des hommes, des personnes qu'on allait choisir aux élections communales, et comme par hasard, il n'y avait que des hommes. Donc vraiment, c'est le fait, je crois effectivement que c'est inconscient. Le problème, c'est que lorsqu'on proteste, et j'en sais quelque chose parce que je suis une grande protestataire, on ne répond pas. On n'a pas de réponse et on ne va pas dire « oui, c'est vrai, on n'a pas fait attention, on fera attention une autre fois ». Non, ça passe, on n'a pas d'humour, on est des emmerdeuses, voilà. C'est ça la réaction en général. Or, ça fait vraiment passer un message idéologique qui est d'autant plus dangereux qu'il a l'air subtil.
Oui, et puis qu'il est partout. Tu as raison, il est absolument partout. Et je voudrais demander à Jean-Baptiste un petit peu ton analyse, toi, des enjeux de ce type de publicité.
Donc tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Irène. Peut-être rajouter juste qu'il faut, selon ce qu'on a pensé en tout cas à Respire, ne surtout pas oublier que la publicité sexiste est aussi une publicité commerciale, c'est-à-dire qu'elle a pour but premier et finalement unique de faire vendre et de faire consommer. Et donc en ce sens-là, en tant que publicité commerciale, elle s'inscrit dans un système beaucoup plus général qui a des racines historiques profondes, qui remontent, disons, très rapidement, au moins à la Révolution industrielle. Or, la Révolution industrielle, elle est apparue dans un contexte où le sexisme était particulièrement fort. C'était vraiment un système encore très patriarcal. La publicité sexiste, donc, s'est développée avec les autres publicités dans ce système-là pour inciter à plus consommer, parce qu'il y avait trop de production, en fait. Il y avait trop de produits mis sur le marché et pas assez de moyens, en fait, pour tout acheter. Et donc, la pub est venue se placer dans ce contexte-là pour créer des besoins éternels, infinis, indéfinis. Et en ce sens-là, elle est venue donc alimenter et renforcer le système qui, dès l'origine, était sexiste. Alors, donc ça a un peu évolué. Maintenant, les femmes ont gagné des droits, mais ça remonte pas à très longtemps, par exemple pour le droit de vote, etc. On voit encore la réforme du divorce qui n'est pas aboutie, qui n'est pas complètement parfaite, etc., etc. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, cette publicité sexiste s'est inscrite dans un système qui reste sexiste, et la publicité sexiste elle-même renforce les stéréotypes et donc empêche une évolution vers plus d'équité entre les hommes et les femmes. Mm-hmm. Donc, la publicité sexiste, qui est aussi une publicité commerciale, est doublement problématique, parce qu'elle entretient les stéréotypes et parce qu'elle alimente un système qui lui-même n'est pas équitaire ou est équitable.
C'est ça que je trouve étrange, parce que la publicité utilise les femmes, mais elle s'adresse aussi aux femmes, parce que ce sont les femmes généralement qui consomment ou qui font le marché, on va dire les choses un peu comme ça. Donc c'est un petit peu ambigu, parce qu'on utilise les femmes et on s'adresse aux femmes. Comment tu analyses ça ?
Ben, il y a très certainement, enfin c'est sans doute pas évident, et c'est peut-être un peu un raccourci de le présenter comme ça, mais il y a forcément une volonté de segmentation du marché de la part des publicitaires. C'est-à-dire que, puisqu'il faut vendre toujours plus à tout le monde et de façon infinie, il y a un problème d'écoulement de la marchandise. Et donc, une des façons pour vendre plus et plus rapidement, c'est de découper le marché en petits segments. Mmh. Et donc, si on entretient les stéréotypes et qu'on départage le marché entre hommes et femmes, par exemple, mais il y a aussi les jeunes, les vieux, les ados branchés, les ados, enfin, tout ce qu'on veut. Donc, hommes et femmes, on crée des nouveaux marchés. Et par exemple, la femme qui était, avant la révolution industrielle, peu consommatrice, est devenue aujourd'hui un agent de la consommation du système à part entière, au moins autant que les hommes. Alors, c'est faire du shopping, c'est acheter la voiture spéciale femme, c'est les produits de beauté, etc. Et donc, le marché publicitaire s'adresse aussi à ce segment-là du marché, qui est le marché féminin.
Donc, elle est victime à deux titres, voilà. Comme acheteuse et comme utilisée par cette publicité. Nous avons parlé des enjeux. Est-ce que vous pouvez parler des effets de cette publicité, des effets directs ou indirects? Je vais demander à Irène. Ouais.
Des effets directs et indirects, je crois que tout le monde est quand même influencé, qu'on le veuille ou pas. Alors, outre le fait d'acheter des choses dont on n'a absolument pas besoin, ce qui est l'effet premier peut-être.
Oui, en effet.
Et d'acheter en plus dans ce qu'on n'a pas besoin, ce qui est le plus mis en avant par les publicités. Donc finalement, comme disait Jean-Baptiste, on le paye. Donc ce qu'on paye déjà une première fois en publicité, une deuxième fois en l'achetant. Donc c'est vraiment une façon de détourner de ce qu'on pourrait acheter de sain, d'utile, en orientant les activités d'achat, enfin les actes d'achat, vers des produits qui sont mis en avant. Mais ça c'est l'acte lui-même d'achat. Mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, l'image qui est véhiculée, ben on finit par l'avoir dans le crâne, et y compris les femmes et les enfants. Je trouve que c'est très important de se dire, les enfants voient ça tout le temps, les enfants sont fort influencés par la publicité, et là, qu'est-ce que ça leur donne comme image?
Je trouve que ta remarque est très judicieuse. En effet, les enfants sont très perméables à toute cette publicité et à l'image qu'on leur donne des femmes, de leur mère, on pourrait dire. Je vais demander maintenant l'avis d'Yvette.
Eh bien, moi je trouve que la publicité, elle flatte un peu les plus bas instincts et elle joue sur la souffrance des gens, les frustrations pour nous vendre cette recette trompeuse qu'est le bonheur par la seule consommation. Soi-disant, il faut toujours consommer plus pour être bien, pour se sentir bien, pour être vraiment dans le vent, comme on dit maintenant. Je trouve ça tout à fait malheureux de se laisser influencer de cette façon-là.
On pourrait dire que c'est une pollution.
C'est une pollution.
Oui, oui. Très bien. Jean-Baptiste, tu veux terminer avant qu'on écoute un peu de musique ?
Un tout petit mot sur les effets de la publicité, juste pour dire que l'efficacité publicitaire est mesurée, y compris par l'industrie publicitaire, et que ça fonctionne. Sinon, ils ne dépenseraient pas une quantité d'argent aussi phénoménale dans la publicité. Donc c'est influent, c'est 2,8 milliards d'euros pour l'année 2006 en Belgique. Et ils utilisent des tas de techniques complexes, y compris le neuromarketing, des analyses sociologiques, sociopsychologiques, psychologiques,
donc,
linguistiques.
2 millions d'euros.
2,8 milliards d'euros.
Oh là là.
En 2006.
On répète alors?
Alors, ça fait 2,8 000 000 000 000 000 euros.
Voilà, presque 3 milliards d'euros pour la Belgique pour un an, pour la publicité. Maintenant, je vais demander à Magali de terminer sur le sujet.
J'avais juste aussi envie de réagir par rapport aux effets. Je pensais à un fait qui nous a d'ailleurs été relaté par des gens de la SBL Respire. Ce sont les beurettes, donc les femmes d'origine étrangère qui sont dans les banlieues françaises, qui, à cause de la publicité, donc qui montrent des corps minces, parfaits, enfin, selon les critères de la publicité, ont des réels problèmes de sous-alimentation parce qu'elles veulent devenir les modèles. Et donc, aussi, la publicité, elle offre à des jeunes qui sont en difficulté sociale, un modèle qui leur permet d'exister à travers donc la consommation.
Voilà. Un modèle dangereux, en fait. On peut dire un modèle très dangereux. Nous allons faire une petite pause musicale. Écoutez Nina Morato, « Ni lui, ni moi ». Nous venons d'écouter Nina Morato et nous sommes toujours sur Radio Panique 105.4 FM avec une émission pour les femmes et par les femmes, elles en parlent encore. Notre thème d'aujourd'hui était le sexisme et la publicité sexiste. Nous l'avons défini, mais nous allons y revenir et plutôt élargir le débat en parlant maintenant de sexisme en général. Et j'aimerais pour cela parler à une de nos invitées, Irène, qui s'est présentée plutôt en disant qu'elle était une éternelle féministe. Donc j'aimerais vraiment demander à Irène quelle est sa définition du sexisme.
Je suis une éternelle féministe. Enfin, je ne sais pas si je suis éternelle, mais féministe sûrement. Alors, comment je définirais moi le sexisme ? C'est que c'est effectivement, bien sûr, tout ce qui peut dégrader alors, l'image aussi bien des femmes que des hommes, mais en sachant qu'en général, c'est plutôt l'image des femmes, mais aussi tout ce qui introduit de l'inégalité entre les hommes et les femmes et qui est effectivement beaucoup plus subtil et plus difficile à combattre. Donc tout ce qui peut avoir comme effet, soit de dégrader l'image, soit d'introduire ou de renforcer plutôt les inégalités.
Voilà. Et tu penses que le sexisme existe encore de nos jours, chez nous ?
Je crains que oui, oui, oui.
Donc les mouvements féministes des années 70 ne l'ont pas fait disparaître ?
Elles ne l'ont pas fait disparaître. Il y a même une petite définition du féminisme que j'aime bien. C'est une Américaine qui a dit ça. Elle a dit « Je ne sais pas ce que c'est être féministe, mais je sais que je me fais traiter de féministe chaque fois que mon comportement empêche qu'on me confonde avec un torchon. »
Ah, c'est parfait. C'est très, très bien. Très bonne définition. Nous allons demander maintenant à Magali sa définition et peut-être qu'elle nous parle du sexisme du point de vue de vie féminine.
Oui, donc... La finalité principale de vie féminine, c'est de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Et donc, on a décidé l'année dernière de mener une campagne sur le sexisme, en montrant que le sexisme existe bien encore, tout autant que le racisme. Alors, le sexisme, il s'exerce dans différentes sphères de la société, il s'exerce en politique, il s'exerce dans les médias, il s'exerce dans le milieu professionnel. Il s'exerce à l'enfance, dans les écoles primaires, secondaires. Il s'exerce dans la sphère privée, dans la famille, hein, les rôles stéréotypés père-mère. Il s'exerce dans les syndicats, le sport et j'en passe.
Partout.
Partout. Donc voilà, moi je pourrais parler longuement sur les différentes formes de sexisme dans les différents domaines. Je propose peut-être de parler un peu de politique, parce que c'est vrai qu'on est pas mal confronté à des discours politiques, à la politique. On voit beaucoup de femmes politiques aujourd'hui, et en même temps, il ne faut pas se fier aux apparences. Le combat des femmes en politique est difficile. En nombre absolu, il y a toujours moins de femmes qui sont en politique que les hommes, malgré, par exemple, l'instauration de la parité sur les listes électorales communales. Et quand les femmes sont en politique, c'est extrêmement difficile. Elles se confrontent à beaucoup de stéréotypes masculins.
Tu as un exemple ?
Oui, un exemple. Par exemple, c'est un exemple français, mais on peut imaginer qu'il existe en Belgique ou dans d'autres pays. Dominique Voynet, lorsqu'elle est allée à la foire au salon de l'agriculture, a été traitée par un monsieur qui la voyait en disant « Tire ton slip, salope ». Voilà, donc c'est quand même très, très, très virulent.
C'est un peu crude. Je me souviens aussi de Ségolène Royal qui se présente aux élections en France et à qui on a dit « Mais qui va garder les enfants ?» Quelques mois après, « Qui va faire les confitures ?» etc. C'était à peu près le même genre de niveau.
Mais donc, pour aller dans ton sens, on pose souvent, les hommes posent souvent les questions aux femmes « Comment vous allez faire de la politique ?» parce que vous devez garder les enfants. On ne pose pas les mêmes questions aux hommes. Quand vous voyez comment la politique est organisée, les réunions ont souvent lieu le soir, on voit bien qu'on ne prend pas en compte la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, puisque habituellement ce sont les hommes qui sont en politique, qui eux sont déchargés habituellement de leur rôle dans la famille. Voilà, donc il y a aussi quand on remarque en politique... Il y a des domaines où les femmes sont plus présentes, qui sont ce qu'on appelle les secteurs dits « mous », entre guillemets. C'est-à-dire des secteurs « mous », ce qu'on appelle. C'est-à-dire des secteurs, la petite enfance, le social, la culture. Et puis, il y a les secteurs durs, qui sont l'économie, les finances, etc. Donc, il y a aussi une discrimination qui s'opère, où on met les femmes dans des domaines qui leur sont habituellement plus décernés.
On les prédispose à un domaine spéciale, quoi. Voilà. Spéciale femme, spéciale homme. Irène voulait intervenir.
Oui, sur la politique, puisqu'on donne beaucoup les exemples français. Moi, j'ai un exemple belge récent. Donc, juste avant les élections communales, dans une des communes bruxelloises que je ne nommerai pas, le journal local avait fait un article pour dire que cette fois-ci, sur les listes, il y aurait davantage de femmes. Et la phrase se terminait par « ce sera plus joli sur la photo ». Je trouve quand même que c'est sans doute plus subtil que le slip de Dominique Voynet, mais ce genre de choses-là, quand on le dénonce, de nouveau, on est une emmerdeuse, parce que ça, c'est pas sexiste, en fait, c'est gentil, quoi, c'est de dire que les femmes sont plus jolies. Mais rien que le fait de pouvoir le dire de cette façon-là, pour moi, c'est vraiment un exemple de sexisme soi-disant subtil, mais flagrant.
Merci Magali, tu veux nous donner d'autres exemples, peut-être en dehors de la politique, le milieu du travail est-il sexiste d'après toi?
Oui. Par rapport au milieu du travail, donc il y a également les sexismes s'opèrent. Alors il y a deux types de sexisme qui s'opèrent. Il y a ce qu'on appelle la ségrégation horizontale. Donc la ségrégation horizontale, ça veut dire que les personnes sont dans des domaines, des secteurs qui leur sont traditionnellement décernés. Donc comme en politique, les femmes vont plus travailler dans les secteurs de l'enfance, elles vont plus travailler dans les secteurs de tout ce qui est prise de soins des personnes, hein, les personnes âgées, les infirmières, etc., etc. Et en plus, ce sont des matières ou des secteurs qui sont en général moins valorisés, tant au niveau du salaire que au niveau de la perception de la société de ces métiers, comme étant des métiers moins importants. Et puis il y a également une ségrégation verticale, dont la ségrégation verticale, ça veut dire qu'en fait, quand on regarde la pyramide, par exemple d'une hiérarchie, hein, dans une entreprise privée, on va voir que les postes à responsabilité sont beaucoup plus occupés par les hommes que par les femmes. Et il y a une expression que je trouve très révélatrice qui s'appelle le fameux plafond de verre, c'est-à-dire que les femmes vont entrer en carrière ou simplement dans un lieu de travail. Et puis, tant qu'elles n'ont pas d'enfants, tout va bien aller, elles vont pouvoir travailler. Et puis, à partir du moment où elles vont avoir des enfants, elles ne vont plus pouvoir avoir des postes à responsabilité parce qu'on va leur dire « vous devez vous occuper des enfants ». Vous n'avez pas assez de temps pour vous occuper du travail. Alors évidemment, ça renvoie aussi à la question du partage des rôles entre les femmes et les hommes à la maison. Voilà. Et alors une dernière chose quand même importante que je voulais dire, et je m'en tiendrai là, c'est qu'il y a quand même une discrimination salariale importante et il y a aujourd'hui 17% de différence entre les salaires des femmes et les salaires des hommes, ce malgré une directive européenne qui impose une égalité de salaire entre les hommes et les femmes.
Donc on peut constater qu'en effet le sexisme existe encore bien chez nous dans nos pays dits développés. Je voudrais demander au seul homme qui est avec nous ce soir, Jean-Baptiste, demander un petit peu ce qu'il pense du sexisme et s'il pense qu'il est sexiste et ou ses copains ou je sais pas s'il a des choses à nous dire sur le sujet.
Oui, alors d'abord préciser que quand j'ai donné plein de zéros tout à l'heure, c'était pas un point de vue phallocrate, mais c'était pour distribuer des euros au monde publicitaire. Qui les mérite bien, à mon avis. Le sexisme, oui, à mon avis, il existe, c'est absolument patent. Est-ce que je suis sexiste? J'espère pas, mais en fait, c'est très difficile de ne pas l'être, puisqu'on baigne constamment dans une espèce de déferlante de stéréotypes, et donc on est vite à reproduire des choses malgré les volontés individuelles. Maintenant, oui, le sexisme existe, je pense qu'Irène et Magali l'ont bien rappelé. Peut-être donner un tout petit exemple sur la pub, puisque c'est le sujet de la soirée. Il y a en ce moment une publicité qui s'appelle « Rent a Wife », donc en français « Louer une femme », contre laquelle d'ailleurs Vie Féminine et d'autres associations ont pris position. Et c'est une publicité dans laquelle on propose simplement un service, donc c'est bidon, hein, c'est faux, c'est une fausse publicité, c'est un teaser, comme on appelle ça, donc c'est quelque chose qui accroche l'attention pour vendre un produit qui n'a rien à voir. Et donc ce teaser, c'est un service de location de femmes. Donc on peut voir par exemple louer une femme et profiter de la vie, comment ça marche, et c'est gratuit 3 semaines, donc la femme, il y a un choix de femmes différentes, etc. Donc ce genre de pub, si ça existe, c'est bien qu'il reste quelque chose de profondément sexiste. Il y a quelque chose qui n'est encore pas réglé, sinon ça, on ne pourrait pas imaginer ce genre de choses.
On en revient, en parlant du sexisme, à l'illustrer par des publicités, parce que c'est ce qui est le plus parlant en fait, c'est ce qui nous entoure partout. Et c'est intéressant parce qu'on était reparti sur le sexisme, tu reviens sur la publicité, on voit que tout ça est très lié. J'aimerais pour terminer demander à Yvette, qui est légèrement plus âgée que nous, voir un petit peu son point de vue par rapport au sexisme, voir l'évolution.
Mais c'est-à-dire qu'autrefois, je crois qu'on ne s'occupait pas beaucoup de publicité. il n'y avait quasi pas de publicité et elles étaient quand même très raisonnables. Chose que maintenant, beaucoup de problèmes se posent parce que quand on regarde n'importe quel journal, n'importe quelle radio, enfin TV, eh bien, il y a toujours ce fond de sexisme aussi bien pour mm-hmm. tout. C'est cela qui est malheureux, c'est que on dirait vraiment que la publicité ne se vend, enfin les produits ne se vendent que si on devient sexiste. Et pourtant, ce n'est pas une nécessité, mais je crois que la publicité qui veut vraiment se démarquer d'une autre, eh bien, elle doit choquer les gens d'une certaine façon.
Je te remercie beaucoup. Nous allons maintenant écouter une autre chanteuse qui s'appelle Pauline Croze et qui va nous chanter « La femme fossile ».
Faire de moi une épouse modèle, en accord parfait avec tes idéaux. Tu voudrais faire de moi la réplique fidèle d'une fille de magazine, de roman, photo. Tu voudrais faire...
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Panique 105.4 FM et vous écoutez l'émission Elles en parlent encore, une émission faite pour les femmes par les femmes qui aujourd'hui avait décidé de vous parler de publicité sexiste et de sexisme. Nous aimerions revenir sur le sexisme qui apparemment sévit dans tous les domaines et Magali va nous en parler.
Oui, donc j'ai parlé précédemment du sexisme qui s'opère en politique, mais il s'opère également dans les médias. Donc on a parlé déjà de la publicité, mais je parlerai des médias de manière plus large. Alors déjà, la place des femmes dans les médias, malgré le fait qu'il y a autant de femmes, non, on compte même plus de femmes étudiantes en journalisme que d'hommes, au moment de pratiquer la profession, il y a une différence, c'est comme l'architecture. Donc par exemple, la RTBF compte 39% de femmes, le groupe Sud Presse 35% de femmes, et les télévisions locales 33%. Et la dernière heure, accrochez-vous, devinez, 4% de femmes. Quant à la tête de rédaction, donc quand on parlait tout à l'heure, je parlais de la ségrégation horizontale, et bien voilà, là on trouve un exemple concret. Il y a très très peu de femmes qui sont à la tête de rédaction. Voilà. Alors l'autre chose qui est importante, c'est que, ça, je trouve que c'est une assez jolie expression, on parlera de journalisme assis pour les femmes, c'est-à-dire que les femmes seront surtout dans des postes fixes, assises sur une chaise. Par contre, on parle de journalisme debout, c'est-à-dire que ce seront les photographes, les reporters qui sont debout lorsqu'ils exercent leur métier. Et donc là, on voit bien que le journalisme assis est surreprésenté par les femmes et le journalisme debout est surreprésenté... par les hommes. Alors bon, d'autres choses qui ont été relevées lors de différentes enquêtes. Quand une femme ose s'exprimer dans une conférence de presse, elle passe pour une grande gueule. Et quand il s'agit d'un homme, on dit qu'il a des idées. Voilà. Quand une femme part en voyage de presse, la première réaction, c'est qu'en pense son mari. Et quand il s'agit d'un homme, on dit qu'il s'investit à fond dans son boulot. Voilà. Et alors, il y a également une enquête intéressante, une enquête internationale qui a été organisée en 2000, dans 70 pays, qui relève que finalement, les personnes citées dans les nouvelles, dans les journaux, ne représentent que 18% contre 82%. Donc là, je rejoindrai le commentaire d'Irène du début de l'émission, qui disait, voilà, qui parlait des cartes wallonnes, qui montraient les talents de la Wallonie. Il n'y a que deux femmes il n'y aurait que deux femmes parmi 20 qui ont des talents. Or, c'est faux. Donc, on influence à nouveau sur les stéréotypes. Voilà. Et alors, on voit souvent dans les médias les femmes comme de manière très stéréotypée. Donc, je veux dire, au-delà de la publicité, elles sont présentées comme des positions de victimes. Donc, une femme sur six, donc dans cette enquête, elle analyse l'image des femmes. Et on voit qu'une femme sur six... contre un homme sur 14 sont présentées comme des victimes. Elles sont davantage identifiées comme des mères et des épouses, alors que les hommes sont plus associés à leur profession ou à leur place dans la société. Et voilà, peut-être que d'autres ont à dire des choses à ce sujet.
Je trouve que tu as bien balayé le problème de la publicité et des médias, et encore, on en revient à l'image dégradante qu'on donne des femmes. Irène, aurais-tu quelque chose à... Avant que nous nous attaquions aux solutions, peut-être, aux positions, aux postures qu'on pourrait prendre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Mais je crois que effectivement, c'est une vue. Magali a donné une vue assez large et qu'on pourrait prendre des tas de domaines. Et je crois que ce qui est pernicieux, c'est que on ne s'en rend pas toujours compte. Je veux dire, quand on lit un journal, on ne regarde pas forcément la signature, donc on ne se rend pas forcément compte que c'est une femme ou que c'est un homme. Et pourtant, ça donne un regard différent. C'est-à-dire, moi, je ne pense pas que toutes les femmes soient féministes. Hein. Si toutes les femmes étaient féministes, ça se saurait et on ne serait plus dans la société dans laquelle on est. Mais n'empêche que, en général, les femmes ont un regard différent, ne serait-ce que par la sensibilité à certains thèmes que les hommes n'ont pas. Et que c'est important parce que ça veut dire que certains thèmes ne sont pas abordés ou alors qu'ils sont abordés d'une autre façon. Et en plus de la ségrégation dont Magali a parlé, de nouveau dans la presse on retrouve ce qu'on retrouve en politique, c'est-à-dire les sujets dont les femmes et les hommes s'occupent, outre le fait qu'elles sont assises ou debout. Il y a aussi le fait que très souvent, bon, elles vont parler de sujets dits de société, mais par exemple pas d'économie, par exemple pas de politique étrangère, et des choses comme ça, donc de ce qui est, entre guillemets, sérieux. Et là, ça réintroduit de nouveau une ségrégation. Enfin, on retrouve toujours le même problème.
Oui, on en cantonne toujours au même rôle, un petit peu de... Enfin, subalterne, oui. Nous allons dire. Jean-Baptiste, as-tu quelque chose à rajouter ?
Oui, un tout petit mot, pardon, qui vous fera peut-être d'ailleurs hurler, mais en fait, je me disais que c'était peut-être important de souligner qu'il y a ici un sexisme anti-homme, qui est minoritaire, mais qui se retrouve notamment chez certaines féministes un peu extrémistes de l'autre côté de l'Atlantique notamment. Et je crois que c'est important de parler de ça parce qu'il y a beaucoup de, y compris de femmes, qui réagissent contre le sexisme en disant que le sexisme est exagéré, on n'est plus dans ce cas-là. Alors effectivement, à mon avis, le sexisme marche dans les deux sens, mais structurellement, il est bien davantage au détriment de la femme que de l'homme. Et je crois que c'est ça qu'il faut souligner. Et que il y a un déséquilibre donc structurel à la fois dans les places que les femmes prennent dans la société et dans la valeur qui est symbolique et monétaire qui est attribuée à la femme. Donc historiquement, par exemple, on a échangé la femme contre du bétail. Donc une femme coûtait, je ne sais pas moi, un troupeau de moutons, 50 chameaux, etc. Et donc ça a évolué, mais encore aujourd'hui maintenant sur le marché du travail belge, on sait qu'à compétence égale, niveau égal, expérience égale, etc., une femme gagne je ne sais plus combien, quelques pourcents de moins qu'un homme.
17, nous disait Magali, voilà. À peu près. Ouais.
Et donc ça n'a strictement aucune justification.
Légitime. Et ce n'est pas légal.
Et ça n'est pas légal en plus. Et donc, et malgré le fait que le sexisme peut être à double sens, comme certains voudraient le dire, dans l'ensemble, il faut bien noter qu'il y a une différence qui va dans un sens et pas dans l'autre.
Oui, tout à fait. Ce que tu disais sur les féministes qui sont extrémistes, sur le sexisme anti-homme, qui en effet doit exister, on peut imaginer, me rappelle quand même que c'est un processus de haine, hein, comme le racisme, comme l'homophobie. Et voilà, qu'il faut pointer ça comme vraiment des processus de haine qui sont partout dans la société et qui un petit peu opèrent sur les cerveaux, malheureusement. C'est à peu près du même niveau.
Oui, ça reste tout le temps une exclusion.
Voilà. Et amenant une exclusion des gens qu'on a envie d'exclure. Parce qu'on peut aussi parler de l'homophobie, on peut parler du racisme aussi, sur le même modèle. Donc ça élargit aussi le débat, je trouve. Après vraiment ce balayage, hein, j'avais envie de vous demander, et je vais le faire un petit peu auprès de chacun, s'il y a des solutions, si on peut s'en sortir, comment faire ? Je vais commencer avec Irène.
Eh bien, si j'avais une solution, ce serait formidable. Hein ? Non, je crois que ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, c'est de réagir. Alors, pour le sexisme en général, bon, il y a les mouvements de femmes, hein, et avec les hommes, avec ceux qui sont prêts à rejoindre ce mouvement. Mais si on en revient à tout ce qui est publicité sexiste, il y a effectivement des possibilités de réagir d'une manière très très cool, très légale, et puis il y a des méthodes peut-être un peu moins cool et un peu moins légales. Alors pour passer du plus soft, du plus doux au plus dur, on peut commencer par essayer de porter plainte auprès du jury d'éthique publicitaire, mais c'est un peu désespéré parce que bon, il n'a pas beaucoup de compétences, il n'a pas grand-chose à dire, mais je crois que Jean-Baptiste pourra en parler mieux que moi. On peut aussi écrire aux médias, donc quand on voit une publicité dans un journal, on peut aussi, et c'est mieux de le faire en groupe d'ailleurs, dire moi en tant que lectrice et avec mes copines, on a été absolument outrés. Comme le but c'est quand même aussi de vendre et de faire lire le journal, ça peut avoir certains effets. Mais il y a des méthodes peut-être un peu plus radicales, dirais-je. On peut manifester, ce qui a été fait par un groupe de femmes qui s'appelait Gafel. Je dis s'appelait parce qu'elles sont un peu tombées, enfin, elles ne font plus d'action pour le moment, mais je pense qu'elles vont en refaire. Ça va de la manifestation, elles ont fait des manifestations, par exemple Rue Neuve au moment des soldes, pour dénoncer certaines marques qui faisaient des publicités particulièrement sexistes. Ce qu'elles ont fait aussi qui était plus drôle, on dit toujours que les féministes n'ont pas d'humour, mais je pense justement qu'elles en ont beaucoup et c'est très bien d'utiliser. C'est de mettre des petits textes dans les poches des vêtements d'une marque qui était particulièrement sexiste. Ce qui fait que là, ça les rendait fous, hein, parce que c'est difficile de fouiller toutes les poches. Et donc, les clients et clientes qui achetaient les vêtements risquaient de retrouver des petits textes contre la firme, contre la marque, dans les poches, ce qui est assez original comme méthode. Et alors, bien sûr, il y a la possibilité de détourner des publicités, de montrer justement qu'on a une créativité et un grand humour en ridiculisant le message. Donc, par exemple, en ajoutant une image, j'ai une idée en tête, on voyait une femme dénudée une fois de plus. Bon, c'était pour des sous-vêtements, donc encore une fois, on peut ne pas s'en offusquer, mais il y avait une main d'homme qui touchait le corps de cette femme-là. Et donc, il y a des filles qui se sont amusées à ajouter un couteau dans la main de la femme, donc qui plantaient le couteau dans la main de l'homme. Et c'était tellement bien fait qu'on avait l'impression que ça faisait partie de la publicité, mais évidemment, ça choquait. Donc, des détournements comme ça, effectivement, ça peut être intéressant aussi.
Donc, en fait, il y a pas mal de moyens pour un petit peu réagir. Et tu nous conseilles d'aller voir au niveau des ASBL ou féministes ou qui luttent un petit peu contre cette publicité. Là, je vais demander à Jean-Baptiste de nous parler de son ASBL Respire.
Alors, en deux mots, le type d'action que nous, on propose, c'est des actions qui sont, pour l'instant, en tout cas, parfaitement légales ou légalistes, pour des raisons qu'on pourrait expliquer longuement. Mais en gros, on espère vraiment faire changer certaines choses. Et pour y arriver, à notre avis, il faut avoir une certaine légitimité. Et pour avoir la légitimité dans des sociétés démocratiques ou dites démocratiques, il faut commencer par respecter le droit. Si on se rend compte, après avoir épuisé tous les recours légaux qui sont à notre disposition, que le droit n'est pas respecté et que les pouvoirs publics sont dans l'incapacité de le faire respecter, alors on passera à d'autres types d'actions. Mais je pense qu'à ce moment-là, on aura plus de légitimité.
Tu peux me donner un exemple à peu près d'intervention ?
Oui, donc ce qu'on propose, d'abord, on essaye de sensibiliser via les médias, ce qui n'est jamais très simple parce que souvent les médias sont partie prenante avec la pub et donc il est difficile de faire passer un message différent, mais bon, on y arrive quand même un petit peu. On interpelle les politiques via des questions parlementaires ou des courriers tout bêtes. On pose des petits actes de résistance individuels, on parle autour de nous. Ça, c'est la chose la plus fondamentale, finalement, quand on passe devant une pub et qu'elle est, par exemple, sexiste, réagir collectivement en disant « qu'est-ce que c'est que cette imbécilerie à laquelle je ne peux pas répondre, qui m'est imposée dans l'espace public ?» Des choses comme ça. Et alors, quand on dépose plainte, pour notre part, en tout cas, au ministère des Affaires économiques, parce que c'est un pouvoir public, justement, alors que le GEP est un lobby publicitaire. Donc c'est une association qui représente les trois grands pôles de la publicité, donc les annonceurs, les entreprises qui commandent la pub, les publicitaires et les médias, donc ceux qui diffusent la pub. Et ils ont un code d'autorégulation qui n'est absolument pas contraignant et qui est d'ailleurs très très mal appliqué et tout à fait incomplet. Donc en fait, ça ne marche pas. Et ce GEP a pour principale fonction, en fait, de diluer la loi et de retarder la mise en place de mesures plus contraignantes par les pouvoirs publics. Donc on dit vraiment le GEP...
À jeter,
exactement. Quoi. Donc, et le Mineco, malheureusement, n'est pas très efficace non plus parce que, pour l'instant, il n'y a pas de moyens qui sont débloqués pour faire respecter la législation en matière de pub.
Je te remercie beaucoup et en fin d'émission, nous donnerons les coordonnées de ton ASBL si les gens veulent réagir et carrément adhérer à ce genre d'ASBL. Je vais demander à Magali la position de Vie Féminine et ensuite je demanderai à Yvette un petit peu ce qui se passe dans le groupe qui s'intitule Publicité sexiste. Donc d'abord Magali.
Bon, nous parlions de loi tout à l'heure, enfin d'action légaliste ou non légaliste. Vie Féminine en fait propose une loi contre le sexisme et donc a constitué un front pour une loi contre le sexisme à l'instar de la loi Moureau contre le racisme qui s'est instaurée en 1981 où on a estimé, enfin les politiciens, la société a estimé que le racisme est intolérable et donc a mis une loi dont l'application n'est pas toujours facile mais en tout cas la société a un message fort disant que le racisme est condamnable. Voilà. Et donc, Vie Féminine propose, à l'instar de cette loi, une loi contre le sexisme. Et donc, si une telle loi était en vigueur, eh ben, beaucoup de publicité deviendrait alors, serait dans toute illégalité et on pourrait agir. Voilà. Donc, néanmoins, il y a une loi qui est en débat en ce moment au Parlement sur les discriminations, donc tant au niveau du racisme qu'au niveau des handicaps des personnes handicapées et au niveau des femmes. Et donc, c'est vrai que c'est la première fois, et c'est sans doute sous la pression de différentes associations, que la question du genre, c'est-à-dire dire qu'effectivement, parce qu'on est une femme ou un homme, et c'est souvent les femmes, comme le disait Jean-Baptiste, on est victime de discrimination. Voilà, donc ce front est signé par une série d'associations. Et donc on interpelle les politiciens pour aller de plus en plus loin dans cette loi. Et donc évidemment, on réagit par rapport à cette loi qui est en discussion. Voilà. Donc, et sinon, au niveau de l'action très concrète, au niveau de la publicité, on a lancé avec un groupe de personnes, mais donc je passerai la parole à Yvette parce qu'elle en fait partie, un début de travail sur la publicité. Voilà.
Alors maintenant, Yvette, parle-nous de ce groupe de travail.
C'est-à-dire que nous avons travaillé durant 2 ans. Nous avons coupé les publicités un petit peu dans tous les journaux, partout, et nous avons bien étudié le problème. Et disons que même une fois qu'il y a des photos qui n'ont pas l'air sexistes, mais on est parfois très étonné de voir que c'est vraiment, dans le fond est vraiment...
Irène, maintenant nous sommes à la fin de l'émission, est-ce que tu peux nous donner des détails pratiques? Si une femme veut se joindre à ce groupe pour travailler avec vous,
oui.
Ce groupe existe
eh bien,
encore?
Nous nous réunissons une fois par mois, mm-hmm. et c'est au 231 rue Royale, donc à Vie Féminine, et c'est normalement le vendredi, le matin de 9h.
Très bien, je vais vous donner le numéro de téléphone de Vie Féminine si vous avez besoin de les contacter, et ensuite je vous donnerai le numéro de téléphone de Respire. Donc Vie Féminine, vous pouvez appeler le 02 513 69 00 et là vous serez renseigné sur les actions et les groupes de travail. Pour Respire, vous devez appeler le 02 534 96 37. Et là aussi, vous serez renseigné sur les actions de Respire. Vous pouvez lire notre magazine qui s'appelle Axel, et Irène nous aide beaucoup dans la rédaction d'Axel. Vous pouvez toutes nous rejoindre dans cette action. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques rendez-vous. Vous donner d'abord le rendez-vous de la prochaine émission qui aura lieu le 26 mai, donc le samedi 26 mai, de 12h à 13h, et qui aura comme thème le mariage. Et plus précisément le mariage et les migrations. Nous aurons des invités qui parleront de leur expérience et d'autres gens qui pourront un petit peu analyser ces phénomènes. Je voudrais remercier plusieurs personnes qui ont aidé à préparer l'émission. Virginie, Marie-Astrid, Magali. Je voudrais remercier à la technique quelqu'un qui nous aide beaucoup, Annabelle. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, essayez de nous rejoindre sur Radio Panique une fois par mois, le quatrième samedi de mois, de 12h à 13h. Au revoir, merci beaucoup. Merci à nos invités. Merci.
Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Radio Panique 105.4. Si le